avec Benoît Marchal.
Bienvenue. Bienvenue pour le 136e épisode Déclencheur.
La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu.
Trois segments dans cet épisode, comme d'habitude. Et notre sujet principal sera une réflexion sur les rapports entre l'esthétique et la technique. Pour nous en parler, et surtout pour nous proposer quelques exercices sur le sujet, j'ai le plaisir de retrouver Nicolas Esposito.
Pub sur Déclencheur.
Avec Erol et questionphoto.com, Vincent Luc vous dévoile les secrets des meilleurs réflexes.
Le mode manuel du 450D peut faire peur. Manuel, on imagine toujours qu'il faille faire tous les réglages soi-même, mais le mode manuel ici est assisté et il est très utile, notamment quand on veut réaliser des images par assemblage panoramique. C'est en effet le seul mode dans lequel on va pouvoir réaliser des images au rendu homogène, qui sera très facile d'assembler par la suite, notamment avec le logiciel livré avec le boîtier.
Découvrez les deux nouveaux livres de Vincent Luc sur le Canon EOS 450D et le Nikon D300 en librairie début septembre. La pub.
Nous voici de retour avec l'adresse du blog www.déclencheur.com. C'est là que vous pourrez vous abonner et on supporte de nombreuses méthodes d'abonnement, y compris l'abonnement iTunes, l'email et tous les agrégateurs RSS. Vous pourrez également y poster un commentaire ou y retrouver tous les liens de l'épisode. Vous pouvez écouter les épisodes directement sur le blog, mais il est plus facile de les copier sur un baladeur MP3, un iPod, un téléphone multimédia, un iPhone, ou de graver un CD pour les écouter en voiture, en métro, en reportage ou en jardinant. Premier segment, comme de coutume maintenant, avant l'interview, je vous présente quelques-uns des nouveaux articles disponibles sur www.déclencheur.com. Tout d'abord le blog Carnet qui s'enrichit de nombreuses notes sur des sujets variés. J'en épingle seulement 4. Une note qui vous raconte une session chez Advancia, session qui nous a fait réfléchir d'une manière tout à fait inhabituelle à Déclencheur, avec la création d'un brassard iPod Déclencheur. Il faut voir la photo. Une note qui reprend quelques réflexions inspirées par l'annonce du Nikon D700 et parmi tous les avis qui ont été publiés sur cet appareil, en particulier qui s'inspire d'un article de Mike Johnson. Une note pour vous présenter le Fostex FR2 LE qui est l'enregistreur à tout faire sur Déclencheur, c'est d'ailleurs celui que j'utilise en ce moment. Enfin, une note pour vous expliquer tout le travail qui entoure une interview, depuis le premier contact jusqu'à la diffusion. Je vous rappelle que si vous êtes abonné par fil RSS au podcast lui-même, le blog Carnet est un abonnement séparé. Vous le voyez, ça bouge énormément sur www.déclencheur.com, et ce n'est pas tout, puisqu'il y a également le Wiki News, dont je vous rappelle le principe. C'est une zone du site que vous éditez, par exemple si vous êtes content de votre boîtier, si vous découvrez un logiciel, un livre ou un site photo intéressant, eh bien venez partager cette expérience avec toute la communauté Déclencheur. C'est ce qu'a fait par exemple Doris qui nous présente le logiciel Starmax, un logiciel qui permet de réaliser des filets d'étoiles. Et a priori en numérique c'est difficile puisqu'on sait qu'il n'est pas conseillé de faire de très longues expositions. Ce logiciel permet de contourner le problème. De même que Thomas Lorblanche qui nous donne un avis très complet sur le livre « La gestion de la couleur pour les photographes ». Une thématique, la gestion de la couleur, qui reste très populaire. Deuxième segment où l'on retrouve Nicolas Esposito pour examiner le rapport entre esthétique et technique. Salut Nicolas !
Salut Benoît !
Comment tu vas, dis donc ?
Bah super, et toi ?
Bah ça va. On a toujours le même démarrage, il faut savoir que tout ça c'est scripté très soigneusement.
Et donc nos papiers
sont très très précis sur comment on doit se dire bonjour.
Exactement.
Alors là tu me disais, tu viens de faire souffrir tes étudiants à l'UTC en leur organisant un examen.
Oui, un examen et je les ai fait réfléchir sur les relations entre esthétique et technique.
Donc dans un examen, tu les fais réfléchir en plus.
Un examen écrit, voilà. Un petit sujet de quelques lignes, un tableau à construire et ensuite à justifier. Voilà, il fallait qu'ils travaillent sur le sujet pendant 2 heures.
Mais le sujet est vraiment intéressant. Donc c'est la relation technique et esthétique. Et c'est intéressant parce que tu as assez souvent cette réaction qui est de dire « En final, moi je m'intéresse qu'à l'esthétique, je ne veux pas m'intéresser à la technique » ou « Je m'intéresse qu'à la technique et j'en oublie un peu l'esthétique ». Et là, on va essayer de faire la corrélation en final.
Voilà, et on parlait tout à l'heure de différentes choses qu'on entend, des phrases qui reviennent souvent sur des forums, dans des discussions, etc. Moi, j'en avais une qui était « il faut oublier la technique », justement pour se focaliser sur ce qu'on va vraiment mettre dans l'image, la composition, l'esthétique, etc. C'est quand même un abus de langage, puisque la technique, si on l'oublie complètement, entre guillemets, on va être un peu à la rue. Donc, la technique, pour pouvoir l'oublier quelque part, il faut d'abord l'assimiler, la maîtriser, pour pouvoir s'en servir, effectivement, de manière assez transparente. Mais il faut bien l'avoir quelque part dans son bagage de connaissances et pouvoir s'en servir comme un instrument, justement, au service de l'esthétique.
Voilà, c'est clair, de toute façon, pour oublier quelque chose, il faut d'abord l'avoir acquis.
Voilà, mais l'oublier vraiment, ça serait vraiment dommage.
Oui, on est d'accord.
C'est un thème qui revient dans énormément d'interviews, en final. Même les gens qui te disent, moi je photographie avec mon cœur, j'ai parlé avec mon cœur, etc. C'est vrai, ils photographient avec leur cœur, mais ils le font parce qu'ils commencent par t'expliquer, voilà, j'ai résolu ces problèmes techniques pour justement pouvoir me concentrer sur les aspects qui sont peut-être les plus intéressants dans l'image. C'est-à-dire, effectivement, l'image elle-même.
Et ce qu'on peut introduire, c'est tout simplement une petite notion qui est l'intention esthétique. C'est-à-dire qu'au moment où on va faire une prise de vue, on peut justement ressentir des choses au fin fond de soi-même et se dire qu'on a envie de retranscrire ce qu'on ressent. À ce moment-là, on va avoir une intention esthétique qui peut parfois s'exprimer extrêmement simplement. On va commencer tout à l'heure avec un exemple très très simple qui est figer une action. On voit une action spectaculaire devant nous, on a envie de figer ce moment pour montrer à quel point c'est spectaculaire. Donc ça, c'est une intention esthétique, c'est quelque chose qu'on veut faire passer, c'est un élément du langage esthétique qu'on va mettre en œuvre. Ce qu'on va voir là, c'est que, évidemment, pouvoir mettre en œuvre cette intention esthétique, il va nous falloir mettre en œuvre une ou plusieurs techniques particulières pour le faire exactement, finalement, comme on l'entend, pour pouvoir justement retranscrire les émotions comme on les a ressenties.
Mais c'est vrai dans n'importe quelle discipline artistique, et c'est même vrai de façon plus large, je crois, dans beaucoup de métiers, c'est-à-dire que l'élément technique est rarement la raison d'être, mais il est le moyen pour après communiquer, en fait, ce qu'on veut communiquer. Et je crois que tu as dit un truc très important. Le but de la photo, c'est de communiquer quelque chose. Comme pour une phrase, on réfléchit à ce qu'on veut communiquer. Et puis de là, après, vient le choix des mots, la manière de l'exprimer, parce que cette même action, si je devais décrire, je pourrais le faire de différentes manières. Je pourrais me placer dans le point de vue de la personne qui est dans l'action. Je peux me placer dans le point de vue du spectateur. De la même façon, l'image qu'on va faire, on va faire des choix. Et l'erreur, je crois, c'est qu'en photo, on a l'impression qu'on peut s'épargner ses choix. Parce qu'il y a un bouton qui s'appelle le déclencheur. Et quand j'appuie dessus, il se passe quelque chose. Appuyer simplement, c'est le choix de dire, je n'ai rien de tellement fort à dire que je laisse la machine faire le choix. C'est le cas dans toutes les photos souvenirs.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que quand on veut aller construire vraiment une image, il faut maîtriser les outils pour ça.
Et donc, on va partir justement de ces intentions esthétiques. On va en prendre quelques-unes. Et on va voir que derrière des intentions esthétiques extrêmement simples, on peut y associer un réglage en particulier. Si on prend l'exemple de figer une action, on va voir que...
Attends, on va le faire comme l'examen, tu veux bien ?
Ouais.
On va faire comme l'examen, tu vas énoncer des questions, on va s'arrêter un instant, chacun va réfléchir à la réponse qu'il peut y apporter, et puis tu nous donneras le corrigé. On va faire comme ça ?
Faisons comme ça.
Faisons comme ça. Donc vas-y, explique-nous l'énoncé. D'abord, comment est-ce que ça va fonctionner ?
Alors, ça va fonctionner en quatre étapes. La première, c'est tout simplement l'énoncé de l'intention esthétique. Par exemple, figer une action.
Donc ça, c'est la question.
Voilà. Derrière, il va y avoir, en gros, trois éléments. Le premier, c'est le réglage principal correspondant à cette intention esthétique. Là, pour figer une action, évidemment, le lien direct, c'est la vitesse.
Ne donne pas la réponse.
Je n'ai pas dit si c'est une vitesse lente, rapide, moyenne. Le deuxième élément de réponse, ça va être de donner un exemple. Quand est-ce qu'on pourrait avoir besoin vraiment de figer une action ? Et puis, le troisième élément, ça va être de décliner une technique typique pour cet exemple donné. C'est-à-dire, dans le cas d'une photo de sport, en général, dans des conditions vraiment standards, quels sont les réglages qu'on va en général appliquer ?
D'accord, ok. Alors, on va essayer. Allons-y. Ce qui est peut-être bien, pour que ce soit clair pour tout le monde, on va peut-être faire le jeu une fois, nous deux. Donc, tu vas poser des questions, je vais répondre. Et puis après, ce sera à vous de jouer. C'est-à-dire que c'est plus Nicolas et moi qui allons travailler. Nicolas va poser des questions. Vous poserez votre lecteur, donc vous l'arrêterez. Vous réfléchirez à la réponse en trois points, comme Nicolas vient de le dire. Et puis Nicolas nous donnera les corrigés. On fait comme ça ?
Voilà.
Alors, vas-y, première question.
Alors, la première question, c'est celle de l'exemple, finalement. Ça correspond à l'intention esthétique, figer une action.
Là, si vous voulez, vous pouvez faire le jeu, mais vous n'êtes pas obligé sur celle-ci. Vous pouvez poser votre iPod déjà et réfléchir à la réponse en trois points. Donc moi, je vais me lancer. Donc le premier point, c'est le réglage principal que ça entraîne pour figer une action.
Voilà.
Alors là, le lien, il est direct. Si on veut figer une action, ça veut dire qu'il faut une vitesse d'obturation élevée pour effectivement que le mouvement n'entraîne pas un flou de mouvement. Et donc, on va choisir la vitesse d'obturation élevée en fonction de la vitesse de l'action en question.
Mais... Deuxième élément de réponse, l'exemple.
Alors l'exemple... une course de voiture. Si tu veux figer une voiture en train de passer, tu vas régler une vitesse assez élevée, peut-être 5 centièmes, peut-être le millième de seconde. La voiture sera complètement figée.
Donc,
la vitesse
pour faire ce réglage de vitesse, tu utilises quel mode ?
Donc tu mets sur le...
C'est très rigolo de te poser la question comme ça.
Pourquoi?
Non, parce que ça fait vraiment exercice.
Bah oui.
Donc Benoît, quel mode vas-tu utiliser?
C'est à moi de répondre?
Oui.
Ben, sur l'appareil... Alors ça va dépendre en fait, parce que tu as deux choix. Si tu as des modes sains, tu as souvent un mode sport. Mode sport qui va te permettre justement de privilégier la vitesse pour justement figer l'action. Si tu veux pas jouer avec un mode sport ou si tu as un boîtier qui n'a pas de mode sport parce que tu es sur des boîtiers assez haut de gamme, tu vas mettre ta priorité vitesse. Ce que je ferais moi, c'est en même temps passer en auto-ISO. Il faut voir dans quel contexte on est. Si on est en extérieur qui fait très très clair, c'est pas nécessaire. Mais s'il fait moins clair ou si c'est du sport intérieur, etc., il peut être intéressant d'être en auto-ISO pour lui laisser monter la sensibilité et ouvrir le diaphragme pour me donner la vitesse que je souhaite.
Du coup, tu penses qu'on va arriver à quel genre de sensibilité quand on est en extérieur? Et d'ailleurs, même si on n'a pas de mode auto-ISO, quelle sensibilité on va pouvoir choisir dans l'exemple que tu as pris, c'est-à-dire du sport automobile?
Ça va vraiment dépendre, je crois, d'où tu es. Et de la... Je sais que du sport automobile dans le Nord, à mon avis, je serais très vite à 400 ISO. Quoi.
Alors,
tu me corriges, monsieur le professeur.
C'est l'ordre de grandeur que j'allais te donner, à peu près. Par contre, moi, quand même, je déconseillerais absolument le mode sport, pour la simple et bonne raison qu'a priori, tous les modes scène, tous les modes programmés, dès le moment où on sait maîtriser les autres modes, qui ne sont pas des modes scène, qui ne sont pas des modes programmés, a priori, on n'en a absolument plus besoin. C'est pour ça qu'en général, je les déconseille.
C'est un filet de sauvegarde, je crois, quand tu n'es pas encore tout à fait sûr de toi.
Voilà, on peut dire ça, effectivement. En plus, il y a un accessoire qu'on peut utiliser en général dans ce genre de cas. Ça fait partie d'une gamme d'accessoires qu'en général, tu aimes plutôt bien.
Je suppose qu'un trépied, ça va quand même être lourd pour du sport. Donc, j'imagine que tu veux parler d'un monopied.
C'est ça.
Ce à quoi je pense en entendant ça, c'est qu'il y a un autre élément qui peut être important. Puisque tu veux une vitesse maximale, ça veut dire que tu laisses... En final, tu obliges ton boîtier à travailler sur l'ouverture de diaph et la sensibilité. Ça veut dire qu'un objectif lumineux peut être un vrai atout, dans le sens où ça laisse à l'appareil plus de latitude, justement pour régler l'ouverture. Mais de nouveau, ça va dépendre d'où t'es. Hein. Si t'es dans le nord ou si t'es dans le sud, t'as pas les mêmes besoins. Voilà. Et ouvert et lumineux, ça veut pas nécessairement dire la même chose.
Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, on va pas apporter des réponses absolues, mais plutôt des ordres de grandeur. Puisque tu parles de l'objectif, on peut parler de la focale. En général, on va être loin des voitures, donc on va avoir une focale plutôt longue. Par exemple, 150 mm. Ce qui veut dire que on va d'autant plus avoir besoin d'une vitesse élevée, éventuellement du coup d'une sensibilité un petit peu haute, tout simplement parce que plus on zoome, plus on va être sensible au flou de bouger.
Et donc on essaie effectivement là de combattre les deux flous.
Exactement. Voilà pour ce premier exemple.
Ça c'est la réponse. Donc j'avais pas tout faux quand même.
C'est même plutôt pas mal. Hein.
Donc tu vas énoncer les trois autres questions.
Ouais.
J'invite vraiment, je crois que c'est un exercice qui est intéressant, une fois que les questions auront été énoncées, arrêtez votre iPod, passez en pause, le temps de réfléchir, de mettre par écrit, éventuellement en quelques mots, faut pas nécessairement être très détaillé, les éléments de réponse sur les trois axes qu'on a évoqués tout à l'heure. Et puis, une fois que vous avez fait ces éléments de réponse, écoutez les solutions. Donc, deuxième question.
Deuxième question qui est toujours formulée selon une intention esthétique. Donc, cette fois-ci, ça va être enregistrer un mouvement. C'est-à-dire exactement l'inverse de figer une action. Par exemple, si on bouge sa main devant l'objectif, la main va être floue et ça va être volontaire. On va enregistrer le mouvement de la main. Donc, de nouveau, il faut trouver le réglage principal auquel correspond cette intention esthétique. Derrière, un exemple pertinent correspondant aussi à cette intention esthétique. Et puis, un cas typique de réglage nous permettant de mettre en œuvre cette intention esthétique en fonction de l'exemple que l'on a choisi.
Vous l'avez entendu, on a des points bonus si on trouve des accessoires.
Il y en a.
Troisième question.
Troisième question, donc toujours une intention esthétique, mise en valeur d'une personne par son détachement du fond.
De fond arrière-plan, tu veux dire?
Voilà, l'arrière-plan. Et la quatrième intention esthétique sur laquelle nous vous proposons de travailler, c'est cette fois-ci à nouveau un petit peu l'inverse, c'est-à-dire la mise en valeur d'un paysage par juxtaposition des plans.
Voilà. Donc pour chacune de ces questions, il faut le réglage principal correspondant, un exemple, et le troisième point?
Les réglages typiques correspondant à cet exemple,
des valeurs typiques
avec comme base l'intention esthétique en question.
Et un bonus si on trouve des accessoires. Donc maintenant, vous mettez l'iPod en pause. Et vous réfléchissez à la réponse. Idéalement, notez en deux, trois mots la réponse. Et on vous retrouve dans quelques instants.
Allez-y. Tic-tac, tic-tac.
Voilà, on est de retour. Donc, Attends, on est de retour et on va avoir les corrigés. Donc et Nicolas, voilà. Correction de la deuxième question.
Alors,
on rappelle l'énoncé.
Encore une fois, ça va être surtout des ordres de grandeur, hein. C'est rien d'absolu. À chaque fois, il va falloir remettre ça en perspective, comme on l'a fait dans le premier exemple par rapport à la situation précise dans laquelle on est. La deuxième question, c'était la deuxième intention esthétique, c'est-à-dire enregistrer un mouvement, l'inverse de figer une action. On avait parlé tout à l'heure, pour figer une action, d'une vitesse élevée. Là, évidemment, ça va être l'inverse. Le réglage principal, ça va être une vitesse lente. Un exemple, j'en ai un que j'aime beaucoup, qui est plutôt technique. Et cet exemple, c'est une foule sortant d'un bâtiment. Pour ajouter du piment, une foule sortant d'un bâtiment de jour. Alors, ce qu'on veut enregistrer à ce moment-là, c'est le mouvement de la foule. Ça peut être extrêmement intéressant pour mettre en valeur une architecture. Donc, le bâtiment va être très très net et la foule va être floue et montrer le mouvement des humains, finalement, par rapport à ce bâtiment. Les réglages principaux, on va avoir besoin de faire une pause plutôt longue. On va choisir une faible sensibilité, par exemple 100 ISO. On va devoir choisir une vitesse lente, donc par exemple 1 seconde. Si elle marche, on va bien voir chacune des personnes distinctement, mais on va bien voir aussi qu'elles sont floues. Pour indiquer cette seconde de pause, on peut évidemment utiliser le mode S ou le mode TV selon les marques. En photo d'architecture, généralement, on est plutôt en courte focale, par exemple 28 mm, pour avoir dans le cadre tout le bâtiment, évidemment. Si on parle des accessoires, il y en a un qui est extrêmement utile, c'est le filtre gris neutre qui se met devant l'objectif, qui empêche une partie de la lumière de rentrer à l'intérieur de l'objectif, ce qui permet de faire une pause longue de jour, ce qu'en général, on ne peut pas vraiment faire. Ensuite, on va avoir besoin d'un trépied et de petits réglages liés à ce trépied. Par exemple, on va utiliser le retardateur pour ne pas avoir de flou au début de la prise de vue. Et puis, on va pouvoir bloquer le miroir pour éviter que le miroir, si on a un réflexe numérique, ne fasse bouger le boîtier. Voilà
ça,
pour les réglages.
Ça, c'était la réponse à la deuxième question.
Voilà.
Le corrigé de la troisième.
Alors, la troisième, nous voulions mettre en valeur une personne en le détachant du fond, de l'arrière-plan. Là, évidemment, ça fait entrer en jeu la notion de profondeur de champ, donc la zone de netteté dans l'image. Pour une prise de vue donnée avec un appareil donné, le réglage principal sur lequel on va pouvoir jouer pour influer sur la profondeur de champ, ça va être l'ouverture. En l'occurrence, pour avoir une faible profondeur de champ, c'est-à-dire la personne nette et l'arrière-plan flou, si on fait la mise au point sur la personne, ça va être une grande ouverture. Alors, cette grande ouverture, c'est le réglage principal. Maintenant, l'exemple, évidemment, ça va être le portrait. Généralement, on peut avoir une ouverture proche de l'ouverture maximale de son objectif. Si on a un objectif qui a une ouverture maximale de f2.8, on peut se caler sur f2.8 ou si c'est f4, se caler sur f4. Après, ça dépend aussi du rendu qu'on souhaite avoir, sachant que les profondeurs de champ vraiment très faibles ne sont pas forcément très simples à gérer non plus. On peut l'indiquer en passant par le mode A ou le mode AV, donc priorité ouverture. On choisit l'ouverture, ça calcule la vitesse. Comme on va avoir une focale plutôt longue, par exemple 85 mm, qu'on utilise beaucoup pour les portraits, ce qui donne un rendu des visages plutôt flatteur.
J'allais le dire et je me permets de t'interrompre.
Oui.
Le choix de la focale est aussi une manière de faciliter le détachement.
Exactement.
Donc l'ouverture et la focale sont deux éléments sur lesquels on peut jouer.
Exactement. Mais c'est pour ça que je disais pour une photo donnée et un appareil donné, et dans photo donnée, j'incluais la focale effectivement plutôt longue. On peut y associer une sensibilité plutôt faible, par exemple 200 ISO. À 100 ISO, si on est en extérieur, généralement, on peut avoir quelques petits soucis. On peut, avec de très bons appareils, pousser jusqu'à 400 pour être sûr qu'on aura une photo vraiment nette, hein, puisque à 85 mm sur un visage, on va tout de suite voir si c'est flou ou pas. Alors, on peut aussi préconiser, pas forcément au niveau de l'accessoire, mais par contre là, au niveau de l'appareil, un boîtier qui dispose d'un grand capteur, sachant qu'un grand capteur va favoriser une faible profondeur de champ.
D'ailleurs, c'est pour ça que sur les compacts qui ont des tout petits capteurs de rien du tout, on a beaucoup de mal à obtenir cet effet.
Exactement.
Et doublé du fait que généralement, que l'ouverture a tendance à être glissante, ce qui fait que quand tu es à un équivalent 85 mm, tu es sans doute à 4, 5, donc tu es déjà relativement fermé.
Effectivement, et c'est ça qui pose un gros problème de rendu, notamment en ce qui concerne les compacts et malheureusement aussi les bridges.
Alors là, j'aurais eu envie, en t'entendant poser la question, j'aurais eu envie de dire, il y a deux approches. Soit, celle qu'on vient d'exposer, soit trouver un fond neutre et cadrer en fonction de ça. Chercher un mur bien blanc, bien vite, voire un fond artificiel, un fond de studio. À condition que le fond soit neutre, on obtient aussi une séparation. J'ai tout faux ou c'est quelque chose qui a du sens?
Ah mais c'est complètement juste, oui, effectivement. Là, je proposais une possibilité, t'en proposes une deuxième. La tienne est moins technique sur le plan photographique, elle fait plus référence à la mise en scène de la photo, mais elle répond complètement à l'intention esthétique qui est de détacher une personne du fond. Effectivement, si on fait en sorte d'avoir un fond neutre dans la mesure où il n'y a pas de détail qui va accrocher l'œil, à ce moment-là, effectivement, on met en valeur la personne.
Quatrième réponse.
Ça concernait la mise en valeur d'un paysage par juxtaposition des plans. Donc ça veut dire que quand on fait sa photo de paysage, on va avoir le premier plan net, peut-être des petites fleurs en bas, peut-être des feuilles en haut. On va avoir la partie centrale de l'image tout à fait nette aussi, par exemple des arbres, par exemple une rivière. Et on va avoir l'arrière-plan complètement net aussi, avec par exemple des nuages, avec des arbres. Et on va juxtaposer ces plans puisque on va avoir trois zones de l'image dans l'exemple que j'ai donné, le bas, le centre et le haut. Donc les trois parties vont bien être juxtaposées. Si on cherche à faire ça, on va chercher à mettre en valeur chacune des parties de cette image, ce qui signifie que chacune de ces parties peuvent être nettes. On va à ce moment-là favoriser au contraire une grande profondeur de champ pour que tous ces plans soient nets. Je t'entendais parler sur le podcast de Déclencheur avec Peter d'hyperfocale, et là effectivement c'est
avec sa calculatrice, oui, il a une calculatrice puisque les objectifs malheureusement ne l'indiquent plus.
C'est une technique qu'on peut mettre en œuvre pour avoir une grande profondeur de champ. En tout cas, le réglage que l'on va favoriser, ça va être l'ouverture, et en particulier on va choisir une faible ouverture. Donc là, c'est vraiment l'exemple simple de la photo de paysage telle qu'on l'a décrite tout à l'heure. Le danger, c'est de choisir une trop faible ouverture. Dans ce cadre-là, une trop faible ouverture, c'est peut-être F22, c'est-à-dire avec un réflexe et un objectif, comme on en trouve assez souvent, l'ouverture minimale. Donc parfois c'est F22, parfois c'est F45, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux l'éviter, parce qu'à ce moment-là, on va avoir un phénomène de diffraction de la lumière au niveau des lamelles du diaphragme qui va rendre l'image un petit peu floue.
Voilà, sans rentrer dans les détails, on repère de la netteté à un certain seuil.
Exactement. Ce qui fait qu'on va éviter l'ouverture minimale et on va plutôt se placer dans une ouverture de, par exemple, F16, qui nous donne déjà une grande profondeur de champ en ne proposant pas trop de diffraction. Évidemment, on va toujours rester sur le mode A ou le mode AV pour pouvoir justement régler cette ouverture et avoir un calcul automatique de la vitesse. Si on est en paysage de jour, une faible sensibilité sera a priori pertinente, par exemple sans ISO. Et tout comme la photo du bâtiment tout à l'heure, on pourra, pour un paysage, choisir une courte focale pour saisir l'ensemble du paysage qui est présenté devant nous.
Alors les questions sont intéressantes parce qu'elles se répondent à chaque fois, dans le sens où tu avais la question sur le portrait où on voulait une faible profondeur de champ. Tu l'as fait suivre d'une question où on veut une grande profondeur de champ. Donc on voit vraiment comment le choix n'est vraiment pas neutre.
Donc du coup, on traite les deux modes semi-automatiques qu'on trouve en général sur les appareils photo, c'est-à-dire le mode STV ou bien le mode AAV, qui sont les modes soit priorité vitesse, soit priorité ouverture, et on les a traités dans deux cas opposés à chaque fois.
Ah ben voilà, donc est-ce qu'on a été des bons élèves, Nicolas?
J'espère. En tout cas, ce sont des points de repère sur lesquels on peut se baser pour soi-même expérimenter ces différentes techniques et justement voir comment on peut mettre la technique au service de ses intentions esthétiques.
Ok, bah Nicolas, merci pour l'examen. Ça doit être les premiers élèves qui te remercient pour nous faire passer un examen, non?
Ah, peut-être, oui.
Ok, à bientôt.
À bientôt, Benoît, salut.
Troisième segment avec vos commentaires et vos réactions. Des réactions positives de Spicy, RSA Godzilla, Adrien, Mickey, Big Bear, Chris, Alain Thomas et Easy Rider. Merci à vous. Sur l'épisode droit d'auteur, énormément de réactions. Sylvain qui indique que signer ses photos comme le propose Christophe n'empêche pas un voleur de les recadrer pour se les approprier. Et donc Mr. Son explique qu'en cas de vol, il faut simplement facturer le double du tarif UPC. Delight s'interroge sur les licences Creative Commons dans ce contexte de droit d'auteur et se demande s'il y a la concurrence déloyale. Cool mon frère est agacé par l'épisode, la photo ne se résumant pas à un problème d'argent pour lui. Gérald Wallaway déplore quelques imprécisions et aurait préféré entendre un juriste comme fil conducteur du sujet, les propos de Christophe venant comme illustration des éléments techniques du juriste. Je m'arrête sur ce commentaire parce que j'avoue que moi aussi, pas spécifiquement sur ce sujet, mais moi aussi, je souhaite développer des épisodes à plusieurs voix. Mais nous avons aujourd'hui un énorme problème avec le montage des épisodes. Le retard est important et donc avant d'arriver à produire des épisodes à plusieurs voix, qui représentent un supplément de montage, il y a d'autres éléments à résoudre. Je ferai sans doute une note à ce sujet sur le blog Carnet. Helpel pose quelques questions techniques sur des aspects fiscaux et je ne saurais trop te conseiller Helpel que de participer à un des mardis de l'UPC pour y trouver les réponses. Andiol et Dominus demandent où signer la photo. Je ne crois pas que ça ait beaucoup d'importance puisque le but est simplement d'identifier l'auteur. Néanmoins, je vais essayer d'obtenir une réponse plus précise. Valérie corrige une petite erreur. Une SCI, en effet, c'est une société civile immobilière. Voilà, c'est noté, merci. Arnaud Paul voudrait que les tarifs UPC soient publics, comme c'est le cas pour les sociétés belges et suisses. J'y vois également indirectement une réponse à ceux qui cherchent des tarifs sur Internet. Allez donc voir auprès des sociétés belges et suisses. Patrick vient de découvrir le podcast et l'a écouté en 3 semaines. Alors là, je dis bravo. Sur l'épisode 24 heures du Mans, encore des réactions sympathiques de LLR, Pierre, qui apprécie particulièrement le Sensing Tour, et de R1, qui partage ses photos du Mans classique. Sur l'épisode DxO Finpack, NeoKiller62 apprécie ce produit qui restaure un certain croustillant dans ses photos. Pourquoi ne pas partager cette expérience sur le Wikinews, NeoKiller? Sur l'épisode Été des portraits, Wazar cherche un flash économique pour son D40X. Rien à voir donc avec le sujet de l'épisode. Il hésite et s'interroge sur le Metz 48 AF1 qui lui a été conseillé. Alors, le produit que Nikon a à son catalogue pour le D40X, c'est le SB400, qui est leur petit flash économique. Il faut le reconnaître, il a l'avantage de la taille et de l'encombrement, mais il est aussi plutôt limité. Le Metz est un flash plus ambitieux, et Metz est une société réputée. Moi, je n'aurais pas a priori d'hésitation, mais ceci étant, je n'ai essayé ni l'un ni l'autre. Partage donc ton expérience sur le Wikinews. Nicolas B. cherche une bonne marque d'album photo. Il a vu du produit Enzo et demande si la marque est qualitative. Vos avis sont évidemment les bienvenus. Je peux dire que c'est une marque qui est connue depuis longtemps et donc a priori il ne devrait pas y avoir de problème. L'important, si on se place dans une optique de conservation, c'est évidemment de privilégier des papiers sans acide. J'ai récemment découvert qu'il y avait un choix assez vaste d'albums ou de supports sans acide quand on regarde du côté des fournitures scrapbooking. Deuxième question de Nicolas, comment fixer des photos coin ou col? Alors, de nouveau, je dirais que ça dépend un peu de ce qu'on veut faire. Si on se place dans une logique de conservation, les coins sans acide de nouveau, et attention, il faut vraiment insister, sans acide, moi j'utilise des Linéco, ces coins ont l'avantage de ne pas endommager la photo. Contrairement à la colle, si on veut déplacer la photo pour changer le support, eh bien, on va forcément devoir un petit peu abîmer la photo. Par contre, il faut le reconnaître, la colle est beaucoup plus élégante. Toujours dans les commentaires de l'épisode L'été des portraits, on en arrive enfin au sujet même de l'épisode, King Volcano qui approuve Gérard, il faut aller voir des expositions. Sur l'épisode Accessoires photo originaux, suite à une question, Peter a complété la liste des logiciels qu'il recommande et il espère qu'ils seront bientôt disponibles sur iPhone. En réponse à une question d'Adrien, Helpel décrit le sac du haricot qu'il utilise pour stabiliser son appareil et c'est, notons-le, une excellente solution bon marché. Sur Lumini, choisir une formation photo, une réaction de 16 ans qui a beaucoup apprécié le sujet et la manière dont Christophe le traite. Il me reste à vous remercier de votre écoute. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous à Déclencheur pour être certain de ne rater aucun épisode à l'avenir. L'abonnement est gratuit. Cela signifie simplement que vous êtes averti de la sortie des nouveaux épisodes. Tous les renseignements pour ce faire sont sur le blog. Je vous rappelle également que Déclencheur vous propose des nouveautés tous les jours, avec le Wikinews, grâce auquel vous pouvez partager vos expériences, du matériel, des livres, des accessoires, des logiciels et des sites photos. Et enfin, le blog Carnet qui couvre des sujets de plus en plus vastes, et en particulier les coulisses de Déclencheur. À bientôt donc sur www.déclencheur.com.